Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
L'hypnose est morte lorsque la psychanalyse est née. Vraiment ? Guérisseurs, magiciens, celles et ceux qui pratiquent l'hypnose ? Qu'est-ce que la suggestion hypnotique ? Bref, l'hypnose a-t-elle un intérêt pour comprendre le psychisme ? A-t-elle des applications thérapeutiques ? Pour répondre à ces questions, il fallait entrer dans un laboratoire et interroger médecins et patients, se demander s'il existait des relations entre hypnose et psychanalyse, entre hypnose et anesthésie. Pourquoi revient-on à l'hypnose en 1980 ? Tel était le titre d'un dossier proposé par Nadine Nimier dans les après-midi de France Culture, diffusé, on s'en doute, en 1980, le 21 avril 1980 précisément. Une réalisation de Christine Bernard-Sugy.
13, 14, 15. Vous êtes profondément endormi, mais vous m'entendez parfaitement. 16, 17, 18. Vous êtes endormi profondément, entièrement. Rien ne peut vous déranger. Et vous allez ressentir ce que je vous dirai de ressentir. 19, 20. Vous dormez profondément.
Une pensée du philosophe Alain pourrait parfaitement s'appliquer à l'hypnose. Magie, religion, science font une chaîne. En effet, cet état modifié de la conscience, que l'on désigne sous le nom d'hypnose ou de suggestion hypnotique, n'a cessé d'être en butte au revirement de la science, cette science tourmentée par l'image que lui a laissée l'occultisme et aussi la sorcellerie et la magie. Il est pourtant aujourd'hui des esprits scientifiques, médecins, psychologues, sociologues, anthropologues qui constatent et utilisent et analysent les processus et les effets de l'hypnose, qu'elle soit induite à des fins médicales immédiatement thérapeutiques, psychothérapiques ou analgésiques, ou à d'autres fins plus largement expérimentales. En préparant le dossier d'aujourd'hui, nous avons dû très vite renoncer à comprendre nous-mêmes et donc à vous expliquer ce qu'est l'hypnose. Et pour ceux qui y ont consacré une grande partie de leurs travaux, comme le docteur Léon Chertok, l'hypnose reste terra incognita, comme l'espace mystérieux de l'articulation première, cette articulation archaïque entre le corps et le langage. En revanche, si nous ne pouvons encore comprendre l'hypnose, nous pouvons nous demander si elle peut servir aujourd'hui et à quoi. Et là, nous avons pu réunir des documents, des témoignages, nous avons assisté à une séance expérimentale d'hypnose, nous avons suscité des réactions et des réflexions, contradictoires parfois, mais qui confirment la réalité du phénomène hypnotique, son efficience et souvent son efficacité, son ambiguïté aussi. Car la question de la suggestion, hypnotique ou non, recouvre celle de l'influence et pose donc l'interrogation majeure de la liberté du sujet. Tout d'abord, au Centre de médecine psychosomatique d'Egerine, nous avons rencontré le docteur Léon Chertok, son directeur, qui dirige également le laboratoire de recherche sur l'hypnose. Au même centre, nous avons interrogé une psychothérapeute, Chantal Dehalleux. Et puis, nous avons assisté à une expérience d'hypnose conduite par le chercheur Didier Michaud avec Nathalie, pour sujet volontaire. Ailleurs, nous avions rencontré Madame Thénault, une ancienne malade guérie plusieurs fois par l'hypnose, un anesthésiologiste, le professeur Jean Lassner, un psychiatre, le docteur Michel Godard, et Martine Gillet, étudiante en psychologie. Ensuite, nous nous sommes rappelés que la psychanalyse est née de la rencontre du docteur Sigmund Freud avec l'hypnose, telle qu'on la pratiquait à Vienne ou à Paris à la fin du siècle dernier. C'est le docteur Alain de Mijola, psychanalyste, qui nous parlera de l'hypnose, racine de la psychanalyse. Enfin, parce qu'on ne peut parler de l'hypnose sans faire appel aux sciences humaines, c'est avec Serge Moscovici, psychosociologue et directeur à l'École des hautes études en sciences sociales, que nous évoquerons les dimensions anthropologiques et sociales de l'hypnose. Mais tout de suite, le docteur Léon Chertok.
Le mot hypnotisme a été créé en 1843 par un chirurgien écossais, James Braid, qui a changé de nom, parce qu'avant ça s'appelait magnétisme animal. Et le mot hypnose est rentré, je n'ai jamais pu trouver, j'ai cherché beaucoup, qui a employé le premier le mot hypnose, mais ça s'est passé dans les années, vers les années 1875-80, il y a le mot hypnose, et en réalité ce sont deux noms qui se recouvrent, bien que certaines estime que l'hypnose est un état de conscience et l'hypnotisme, ce sont les procédés par lesquels on obtient l'état d'hypnose. Si vous estimez que l'hypnose, que l'essence de l'hypnose est le processus relationnel, alors le processus relationnel était utilisé depuis que le monde existe à des fins thérapeutiques. On pense même que l'hypnose est mentionnée dans la Bible, c'est anecdotique, puisque vous savez qu'on peut obtenir une analgésie par l'hypnose, et on peut même faire des interventions chirurgicales sous hypnose sans aucun produit chimique. Alors on pense que la première intervention chirurgicale sous hypnose était l'opération faite sur Adam pour enlever la côte, pour créer Ève. Et on a trouvé que dans la Bible, le mot... Je crois qu'on le traduit par sommeil, mais le mot hébreu, tardema, ne veut pas dire exactement sommeil, c'est une espèce de sommeil léthargique. Ça veut dire une espèce de léthargie. Alors, on dit peut-être que c'était les gens, à l'époque biblique, il existait une notion d'hypnose. Mais enfin, elle est entrée dans le domaine expérimental à la fin du XVIIIe siècle. Là, il n'y a aucun doute, c'est Mesmer, Franz Anton Mesmer, qui a introduit, qui est venu en 1778 à Paris, et il a proposé sa théorie du magnétisme animal, qui était un nouveau procédé thérapeutique. Bien sûr, il avait une théorie très particulière, c'est-à-dire la théorie fluidique. Personne n'a accepté à l'époque cette théorie, et il y avait une célèbre commission désignée par Louis XVI en 1784 qui devait étudier l'existence du fluide. Ils ont produit deux documents extraordinaires. Ce sont le premier document de psychologie ou de psychothérapie expérimentale. Ils ont publié ces fameux rapports où ils ont montré tous les phénomènes hypnotiques, mais comme leur tâche n'était pas de constater les faits, mais de chercher les fluides, comme ils n'ont pas trouvé, ils ont condamné, ils ont dit, le magnétisme animal n'existe pas, tout est dû à l'imagination. Or, ce verdict, ils ne se rendaient pas compte que là, ils ont ouvert la voie à tout ce qu'on appelle maintenant psychanalyse, psychologie relationnelle, médecine psychologique. C'était l'imagination, puisque l'imagination, à cette époque, ça voulait dire que c'était rien.
Le premier grand nom chez nous, c'est Mesmer, et le second, les seconds, je dirais, c'est Charcot et Freud.
C'est grâce à Charcot que l'hypnose a été officialisée comme instrument de recherche. Ça, c'est grâce à Charcot, parce que ni Liébault ni Bernheim n'avaient pas le prestige de Charcot. Vous savez, à la fin de 1880, Charcot, il y avait une renommée mondiale. Paris, c'était la Mecque. Vous comprenez, tout le monde venait à Paris pour... chez Charcot. Malheureusement, après la mort de Charcot, ses élèves et tout ça, on voulait complètement détruire, comme il arrive quelquefois, vous savez, dans le rapport père-fils, et jusqu'à un des élèves de Charcot, qui s'appelait Babinski, qui a démembré l'hystérie, et que aussi bien l'hystérie et l'hypnose étaient une sorte de simulation. Et ça, c'était le déclin de l'hypnose en France.
Docteur Alain de Mijola, psychanalyste.
La psychanalyse a dès le départ, eu un rapport avec l'hypnose et avec l'hypnotisme. Ceci déjà, même avant que Freud ne vienne chez Charcot. Donc Freud avait eu contact avec l'hypnose, mais il était venu à Paris tout à fait pour autre chose. Il est venu à Paris pour des travaux de laboratoire chez Charcot. Et là, d'un seul coup, sa vie a basculé. Il a été séduit par Charcot. Et cette séduction opérée par le professeur extraordinaire de la Salpêtrière lui a fait découvrir à la fois l'existence de l'hystérie et les lettres de noblesse, en quelque sorte médicale, de l'hystérie que Charcot s'efforçait de donner, et aussi, d'un seul coup, l'existence de, des phénomènes hypnotiques et de ce qui n'était pas dû à la simulation, comme tout le monde le prétendait. Freud a été tout à fait étonné de tout ça, et cela lui a donné, d'un seul coup, l'idée d'une ouverture possible sur un champ de recherche, au point de vue clinique, qui n'avait pas été abordé, en tout cas, dans la Vienne qu'il connaissait à son époque. Donc, de retour, il s'installe. Il s'installe, mais au début, il ne pratique pas l'hypnotisme tout de suite, étant donné, une fois de plus, la très mauvaise réputation que cela avait à l'époque et les critiques très violentes que les professeurs autrichiens faisaient à l'égard de ce procédé. Il va petit à petit employer dans sa pratique privée la suggestion hypnotique. Alors la suggestion hypnotique consistait à donner aux malades, sous hypnose, en provoquant un sommeil hypnotique, à donner des suggestions destinées à faire disparaître le symptôme. N'est-ce pas ? Vous avez mal à ceci. Non, vous n'avez pas mal et à votre réveil, vous n'aurez plus mal. C'était tout le phénomène de la suggestion hypnotique et Freud emploie ça. Mais ça ne satisfaisait pas. Il était essentiellement un chercheur. Et un chercheur, et c'est précisément d'ailleurs tout ce background de chercheur qui lui a permis de faire une théorie absolument fantastique de l'appareil psychique, alors qu'aucun de ceux qui avaient employé l'hypnose, et d'ailleurs aucun de ceux qui continuent de l'employer maintenant, n'a jamais fait la moindre découverte sur ce plan-là, ni jamais élaboré la moindre théorie de l'appareil psychique. Donc Freud, lui, en tant que chercheur, a voulu, dans tous les cas d'hystérie, dans tous les cas de neurasthénie et de maladies psychiques qui lui étaient présentées, essayer donc de trouver la cause de tout ça. Et se servir de l'hypnose comme d'un moyen, mais seulement un moyen, que Freud emploie. Mais Freud, au bout d'un moment, s'aperçoit que cette technique exige le sommeil hypnotique et que beaucoup de patients sont réfractaires. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'on pourrait éventuellement essayer de se passer de cette technique d'endormissement ? C'est ainsi que petit à petit, il va abandonner l'hypnotisme pour une première méthode qui est la méthode de la concentration, dans laquelle il se place derrière, il commence déjà alors à allonger les patients, et il commence à se soustraire justement à leur regard. C'est le début, si vous voulez, de la technique psychanalytique, qui se fait vers les années 92 à peu près, d'automne 92 en tout cas, avec une patiente assez célèbre, puisque c'est celle du fil rouge, c'est Elisabeth von Herr. Et à ce moment-là, Freud a complètement abandonné l'hypnose, et de plus en plus, et c'est ça qui me paraît tout à fait important à noter, de plus en plus il s'est effacé, de plus en plus il s'est mis derrière, de plus en plus il a tenu justement à effacer, à gommer au maximum ce rôle de l'autre, ce rôle du psychanalyste derrière. Et c'est, je crois, ce qui nous différencie radicalement de toutes les techniques hypnotiques.
Pourtant, Chantal Dehalleux, psychothérapeute au centre d'Egerine, s'interroge sur un possible rapprochement théorique et pratique entre hypnose et psychanalyse.
Je viens d'une formation analytique classique. Et quand je suis arrivée ici, au centre d'Egerine, je ne savais même pas qu'on faisait de l'hypnose. Et je me suis intéressée à l'hypnose en constatant dans les expériences le fait hypnotique. Et je me suis intéressée à l'hypnose parce que ça m'a posé tout de suite des questions. Qu'est-ce qu'il y a de différent entre l'hypnose, dans une séance d'hypnose, dans la relation, et qu'est-ce qu'il y a de différent dans la relation que je peux, moi, avoir avec mon analyste? Il y a quelque chose qui échappe dans une relation profonde avec un thérapeute, qui est difficile à exprimer, qui est presque intraduisible, mais qui se passe entre deux personnes. Et qui est peut-être là quelque chose d'hypnotique. C'est de l'ordre du non-verbal, si vous voulez.
Est-ce que ça veut dire que votre relation à votre analyste s'est modifiée parce que vous saviez quelque chose, vous connaissiez quelque chose de l'hypnose.
Ce qui était très étrange, en effet, c'était pour moi personnellement une aventure, c'est que mon analyse était opposée fondamentalement à l'hypnose. Et moi, j'en comprenais pas les raisons, sauf théoriquement, c'est-à-dire Freud a abandonné l'hypnose. Bon, et bien entendu que beaucoup de personnes ont suivi cette même démarche. Mais je me demandais toujours pourquoi mon analyse était tellement opposée à l'hypnose pour moi-même. Comme pourquoi je ne pouvais pas m'occuper de l'hypnose, comme si à ce moment-là j'étais en dehors de l'analyse. Je comprenais des raisons théoriques, mais je n'en voyais pas le sens vraiment au niveau de la relation profonde. Et ça m'a certainement obligée à prendre des positions beaucoup plus fortes pour moi-même et à m'engager là-dedans. Et c'est pour ça que lorsque Dr. Chartok m'a confié des patients, pour moi c'était très important, parce que d'une part j'allais être confrontée avec ma propre analyse, à savoir ce que j'allais faire, d'autre part ici à ce travail. Et quand quelqu'un est dans un état hypnotique important, et dans la relation qui se noue, vraiment il y a quelque chose où on est ailleurs, et qui est pour moi extrêmement proche de ce que certaines séances peuvent vivre en analyse classique. Et c'est ça, le côté non-verbal, où on y plonge tous les deux. C'est les deux personnes qui y plongent. Et c'est ça le dynamisme, disons, du transfert ou de l'hypnose. C'est de descendre, mais d'en sortir. Alors, c'est justement la question de beaucoup d'analystes qui disent qu'on n'en sort jamais. Mais avec certaines patientes, moi, j'ai eu vraiment l'impression qu'on pouvait s'en sortir d'une certaine façon. C'est-à-dire que certains patients étaient tellement plongés dans l'hypnose que j'avais le sentiment, avec moi d'ailleurs, qu'il fallait que j'arrête quelque chose. Qu'ils étaient tellement loin que j'avais plus de communication avec eux, dans un sommeil profond où ils ne répondaient presque plus à la parole. Et à ce moment-là, on n'a plus qu'à se jeter à l'eau avec eux et essayer de dire des mots, n'importe quoi à la limite, mais qui arrêtent ça. Alors il y a une espèce, si vous voulez, de flux et de reflux, si vous voulez, d'une relation qui plonge et qui remonte. Et c'est ça, à mon avis, qui est une expérience narcissique, une expérience, qui est réparateur, quelque chose qui est réparateur en soi, mais qu'on ne peut pas expliquer théoriquement, moi je ne sais pas. L'hypnose a ça aussi comme schéma, c'est que on vous dit toujours, vous êtes tout-puissant, vous ferez bien d'analyser un peu ça, vous êtes toujours... Mais c'est sûr qu'on est tout-puissant, parce que le méconnaître, c'est méconnaître la relation de dépendance et de toute-puissance qui existe, autant dans l'analyse aussi, je pense. C'est évident que les gens qui demandent l'hypnose, c'est de la magie un peu pour eux, et pourquoi pas, mais enfin, on est dans une toute-puissance. Mais moi, je le sais, si vous voulez, et j'accepte de jouer ça. Il faut être dedans, vous comprenez ? Mais moi, je crois pas que je suis toute puissante, mais il faut bien que j'accepte le désir de l'autre qui veut que je sois. Et c'est ça le deuil de l'hypnose et de la relation qui va évoluer, c'est qu'à un moment, les patients vont renoncer à cette toute puissance du thérapeute et se dire qu'au fond, finalement, il ne l'est pas, ce n'est qu'une illusion.
Détendez bien. Comme d'habitude, vous allez fixer la cible. Et vous garderez les yeux fixés sur cette cible jusqu'au moment où vous vous sentirez suffisamment détendu et suffisamment relaxé pour vous laisser complètement aller. Maintenant, vous vous détendez. Vous commencez à détendre chaque muscle de votre corps. Vous allez laisser se détendre les muscles de vos jambes, les muscles de vos mains, de vos doigts. Vous relâchez les muscles de votre cou, de votre poitrine. Vous relâchez tous les muscles de votre corps. À mesure que vous vous relâchez, vous sentez peut-être une sensation de lourdeur qui se répand dans tout votre corps. Tout votre corps est lourd, de plus en plus lourd, comme du plomb. vous vous détendez, vous oubliez progressivement tout ce qui vous entoure, et vous vous détendez, vous vous détendez complètement, complètement. Seule ma voix vous intéresse, ma voix que vous écoutez en dormant. Bientôt, il n'existera plus pour vous rien d'autre que ma voix à laquelle vous consacrez toute votre attention. Une sensation agréable de chaleur et de lourdeur, de léthargie se diffuse dans tout votre corps. Vous n'avez maintenant ni soucis ni tracas. Vous êtes profondément et agréablement détendu et vous vous détendez encore plus, de plus en plus profondément. Tout ce qui n'est pas ma voix s'éloigne de plus en plus. Ma voix seulement est importante. Rien d'autre ne vous intéresse maintenant. Seule ma voix est ce que je vais vous dire. Maintenant, vous sentez somnolente, assoupie. Bientôt, vous serez profondément endormi. Mais vous continuerez à m'entendre. Vous ne vous réveillerez pas avant que je vous le dise. Je vais maintenant compter et à chaque chiffre, vous vous sentirez glisser profond, profond, dans un sommeil profond et agréable, un sommeil profond et reposant, un sommeil dans lequel vous pourrez faire tout ce que je vous proposerai de faire. Un, vous allez vous endormir profondément. Deux, profond, profond. Trois, quatre. Vous êtes de plus en plus endormi. Cinq, six, sept, huit. De plus en plus profond. 13, 14, 15. Vous êtes profondément endormi, mais vous m'entendez parfaitement. 16, 17, 18. Vous êtes endormi profondément, entièrement. Rien ne peut vous déranger. Et vous allez ressentir ce que je vous dirai de ressentir. 19, 20. Vous dormez profondément. Vous ne vous réveillerez pas avant que je vous le dise. S'il vous plaît, soulevez vos deux mains. Vous allez sentir une force qui attire vos deux mains l'une vers l'autre. Progressivement, vous sentez cette force.
Qu'est-ce que c'est l'hypnose aujourd'hui ?
L'hypnose aujourd'hui, on ne sait pas encore malheureusement ce que c'est.
Docteur Chertok.
C'est un état de conscience. C'est un état de conscience modifié qui est produit par une manipulation corporelle en quelque sorte, c'est-à-dire par le travail sur le champ sensorimoteur, c'est-à-dire par la production en isolement du monde à l'extérieur, en donnant des suggestions au sujet, qu'il se concentre sur son corps, des perceptions se modifient, et on peut pratiquement dans cet état, par la parole, agir sur les fonctions mentales et sur les fonctions physiologiques. Mais quand il y a une déprivation, un isolement sensoriel partiel, on sait que les gens opèrent ce qu'on appelle une régression affective. Et pour dire ça très schématiquement, quand on manipule le corps, l'affect se met à sécréter, il y a sécrétion de l'affect. Et justement, ce qui est le plus intéressant dans l'hypnose, c'est justement ce processus relationnel qui, au fond, est la base de toutes les psychothérapies. C'est pourquoi je pense qu'il n'y a aucune psychothérapie qui ne puisse pas s'intéresser à l'hypnose, puisque c'est là que le processus relationnel affectif est visible de manière grossière, macroscopique. Qu'est-ce qui est spécifique dans cette relation? Nous n'en savons rien. J'ai émis quelques hypothèses qu'il s'agit, à mon avis, d'une relation pré-transférentielle, d'une relation beaucoup plus archaïque, où le psychologique et le somatique ne sont pas encore différenciés.
Oui, vous parlez dans votre livre d'une inscription biologique.
Bien sûr.
C'est une hypothèse ou c'est avéré?
C'est une hypothèse. Inscription, je pense que toute fonction relationnelle est un phénomène psychobiologique. Elle est inscrite dans les codes génétiques. On ne peut pas vivre en quelque sorte sans relationner.
Quels sont vos rapports avec justement le corps médical global? Est-ce qu'il y a des médecins qui vous envoient des malades pour lesquels ils disent ne rien pouvoir?
Et malheureusement, les gens qui viennent de demander l'hypnose, ce sont des gens où tout a échoué.
Et parfois ça marche.
Et parfois ça marche.
C'était en 1963.
Madame Thénault.
Où j'ai subi une hystérectomie qui a été suivie d'une rétention d'urine totale pendant plusieurs semaines. J'avais vu plusieurs médecins, j'avais vu surtout des urologues, et un jour j'ai eu une convocation par lettre me demandant de me trouver tel jour à telle heure à l'hôpital Cochin et de demander le docteur Chertok. Je ne savais évidemment pas du tout qui était ce médecin. Il a commencé par me poser quelques questions et j'ai compris très vite qu'il ne s'agissait pas du tout d'un urologue. Et j'ai carrément demandé, « Docteur, quelle est votre spécialité ?» Il m'a dit, « Je suis psychiatre. » Alors, l'effet a été un peu choquant parce que c'était quand même, il faut tenir compte, c'était en 63, il y a bientôt 20 ans de cela, le mot de maladie psychosomatique n'existait même pas peut-être, ou on en parlait guère, et je ne pensais pas du tout à ce que pourrait faire un psychiatre pour moi. Je l'ai revu 8 jours après, et il m'a dit, voilà, je vous propose un traitement. Je soigne des malades par hypnose. Est-ce que vous acceptez de faire un essai de traitement et de voir si ça réussit ou non? Alors, j'ai dit, bien sûr, j'accepte. Évidemment, ce n'est pas à la première séance que le docteur est arrivé à m'endormir. Il y a eu, je crois, 3 ou 4 séances sans résultat. Et à la 4e séance, il est arrivé à m'endormir profondément, jusqu'au moment où j'ai entendu le docteur dire « Vous allez vous réveiller ». Et voilà. Le docteur m'a dit après qu'il m'avait suggéré, pendant ces séances, pendant la durée de l'hypnose, que cette rétention d'urine devait cesser. Et effectivement, après la 3e séance, je n'ai plus eu besoin de sondage du tout. Ça a duré 5-6 jours et ça a recommencé. Alors à ce moment-là, je l'ai vu 2 ou 3 fois par semaine même. Et au bout de disons, 2 mois à peu près, c'était totalement terminé.
Et vous attribuez cette guérison uniquement à l'hypnose?
Oui, uniquement à l'hypnose, parce que le docteur m'a expliqué après, enfin ça c'est son explication psychiatrique, que cette opération, je l'avais considérée comme une mutilation. D'abord, je ne voulais pas cette opération, je ne voulais pas l'accepter. Et alors, il m'a expliqué qu'inconsciemment, que mon inconscient voulait remplacer la matrice absente par une vessie pleine.
On ne sait pas pourquoi. Il y a des sujets qui peuvent obtenir une légère relaxation, qui peuvent obtenir une légère anesthésie, qui peuvent produire d'autres phénomènes. Mais le nombre de bons sujets, c'est des sujets chez lesquels on peut produire des hallucinations auditives, olfactives, visuelles. Olfactives, c'est-à-dire on peut leur présenter l'ammoniac et dire que c'est du parfum et ils s'extasient, et qui ont ensuite une amnésie au réveil. Ça, c'est des sujets comme ça, c'est une petite partie. On pense qu'il y a 5% de la population qui est capable d'entrer en hypnose profonde.
Oui, c'est pour ça qu'on ne pourrait pas donner l'hypnose pour méthode d'anesthésie
non, bien
généralisée.
Sûr, non, bien sûr, c'est une méthode. Quelquefois, moi, je suis tombé 2 fois sur des cas où on a pu faire des interventions chirurgicales, mais c'est intéressant. En preuve expérimentale, ça n'a aucune valeur pratique.
Un jour, j'ai eu un ennui dentaire. J'ai eu une opération dentaire en vue. Et ma dentiste était très ennuyée parce que j'ai des ennuis cardiaques en même temps. Et mon cardiologue s'est opposé absolument à ce qu'on fasse cette intervention. Je devais voir le docteur Chertok cette semaine-là, comme je le voyais une fois par mois à peu près. Et comme j'avais l'habitude de lui raconter mes ennuis et tous mes problèmes, je lui ai dit, voilà le problème qui se pose. Alors il m'a dit, bien, voulez-vous accepter un essai ? Je vais essayer de vous faire faire cette opération par votre dentiste sous hypnose et sans aucune anesthésie de quelque genre. Et alors, on m'a fait, en l'espace de 30 minutes à peu près, d'abord une opération sur la mâchoire, qui est très douloureuse en général, et elle a fait ce traitement, cette intervention, sans aucune difficulté. Après cela, il a fallu extraire les 5 dents. Ah oui, je prenais des anticoagulants. Et vous savez qu'avec les anticoagulants, l'hémorragie est presque fatale. Alors, le docteur Chertok m'a dit après, ou un de ses assistants m'a dit après, le docteur a simplement dit, vous allez dormir, vous n'allez rien sentir, on va vous enlever des dents, vous n'allez pas saigner, et vous n'allez pas souffrir. Il paraît donc qu'une demi-heure à peu près s'est passée, et le docteur m'a réveillée. Alors là, j'ai nettement le souvenir d'avoir dit au moment de me réveiller, mais quand est-ce que vous allez commencer pour qu'on en finisse? Mais il a dit, c'est terminé. J'ai dit, quoi? Qu'est-ce qui est terminé? Mais où sont mes dents? Il a dit, mais vous avez votre appareil dans la bouche. J'ai parlé, j'étais très bien et je n'ai pas saigné du tout.
Maintenant, j'aimerais que progressivement vous perdiez le sens des odeurs. Vous allez sentir une impression d'analgésie au niveau du nez. Plus vous y pensez, plus vous remarquez que votre nez devient insensible. Dès maintenant, vous sentez peut-être les picotements qu'on ressent en cas d'analgésie. Vous ne sentirez plus aucune odeur, même la plus forte des odeurs. Est-ce que vous ressentez l'impression d'analgésie?
Oui.
Je vous approchais un flacon contenant une substance odorante et vous allez inspirer. Vous avez senti l'odeur?
Oui.
Un peu? Fort?
Non.
Vous avez reconnu cette odeur?
Oui, l'ammoniaque.
Je suis très convaincu que l'hypnose est une modalité susceptible de transformer les perceptions sensorielles.
Professeur Jean Lassner, chef du service d'anesthésiologie au CHU Cochin-Port-Royal à Paris.
Il est donc très proche de l'anesthésiologie dont le but premier était de moduler ou de supprimer les perceptions douloureuses, chose que l'hypnose, dans une certaine mesure, est également capable de faire.
Est-ce que vous avez pratiqué l'hypnose comme élément complémentaire de l'anesthésiologie pharmacologique dans votre pratique?
Oui, c'est parfaitement possible. En certaines circonstances, c'est utile. Ce n'est pas la seule possibilité d'insérer l'hypnose dans la pratique de l'anesthésiologie, car l'hypnose a comme fond une relation entre deux êtres humains, et cet établissement d'une relation de confiance est susceptible de dissiper l'angoisse préopératoire et elle est également susceptible d'améliorer les relations entre l'anesthésiologiste et le patient.
Mais est-ce que vous pensez que cette pratique adjuvante, cette pratique annexe, pourrait être tout de même développée et se développe-t-elle?
Je ne pense pas que pour la France, il y ait connu un développement. Je ne pense pas qu'il soit promis à un avenir brillant en anesthésiologie.
Quand vous dites en France, est-ce que ça veut dire qu'ailleurs, l'hypnose a une meilleure audience?
Parfaitement.
Où cela plus particulièrement?
Dans les pays anglo-saxons qu'en Allemagne ou en Russie.
Les patients que vous avez vous-même anesthésiés, est-ce que vous les avez trouvés en meilleur état à leur réveil ou bien en face de l'opération? Est-ce que véritablement l'hypnose leur apporte quelque chose?
J'ai de nombreux exemples qui le confirment. Et je suis, pour ma part, tout à fait convaincu que c'est un appoint utile et avantageux pour le malade.
Moi, je pense qu'à la base de tout ça, il y a une question de, non pas de croyance, mais de confiance du malade au médecin et de l'acceptation totale du malade de ce que le médecin lui impose.
Un, deux, trois, quatre, cinq. Vous avez 2 ans. Qu'est-ce que vous faites?
Je joue.
À quoi jouez-vous?
Je tire un objet par une ficelle. Et j'ai un ours dans l'autre main. Un petit cheval en bois avec plusieurs couleurs.
Qu'est-ce qu'il y a autour de vous?
Des plantes.
Nathalie, alors nous venons d'assister à cette séance. Je voudrais d'abord vous situer.
J'ai des amis qui m'en ont parlé, qui m'ont parlé de ces expériences. Et j'ai eu envie de connaître ça parce que l'hypnose, je connaissais ça surtout sous l'angle du spectacle. Des charlatans qui endorment les gens, qui leur font faire des choses incroyables. Alors, parler de l'hypnose pour la médecine, ça m'a semblé assez bizarre. Et je suis venue. Alors, la toute première fois, ça s'est passé avec l'hypnose. L'induction a été faite avec un magnétophone. Alors, j'ai eu un petit peu de mal à tomber dans l'hypnose parce que j'étais très sceptique. Vu que d'habitude, ce qu'on voit, c'est l'hypnotiseur qui fixe l'hypnotisé avec des grands yeux exorbités en faisant des gestes et des tas de choses comme ça. Là, il n'y avait aucun geste. Et puis, ça m'a gênée. Vraiment gênée parce qu'il n'y avait pas de contact avec quelqu'un. Et la seconde fois, c'était plus intéressant parce que c'était une personne qui me faisait l'induction. Alors j'avais plus envie de participer parce qu'il y avait le contact avec quelqu'un.
Et la forme de ce sommeil?
Ça ressemble au moment où on va s'endormir. C'est-à-dire, vous êtes complètement engourdi, vous êtes très bien, mais vous avez encore une vague conscience. Et vous sentez que vous allez sombrer. J'entends très bien ce qu'on me dit et je suis tout à fait consciente de moi-même et de la personne, de la voix tout du moins, qui me donne les ordres. Quant au reste, les bruits extérieurs, il n'y en a pas, il n'y a qu'une voix, et moi. Je n'ai pas de perception, mais j'ai la conscience de moi, très 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 profonde. C'est-à-dire que j'ai encore un minimum de volonté. Je veux dire, quand on me demande de rêver, bon, j'essaie de rêver, mais je crois qu'il y a quelque chose qui m'empêche de rêver. Je ne dois pas avoir très envie de le faire, en fait.
Didier Michaud, je voudrais vous poser quelques questions concernant la séance. Comment vous sentez-vous et comment êtes-vous?
En général, le rôle qu'on a à tenir dans la séance au laboratoire, c'est un rôle branché sur le sujet. Le texte, en fait, comme Nathalie vous l'a dit tout à l'heure, le texte nous arrive très fréquemment de le faire dire par le magnétophone qui nous sert à la limite de voix extérieure, en fait. Donc, la concentration sur ce qu'on dit n'est pas toujours un avantage très positif. En plus, je crois réellement que quand on veut en dire trop par le texte, on éveille les résistances du sujet plus qu'autre chose. Donc notre rôle, c'est plutôt un rôle de gardien, de nourrice, quoi. Qui est un rôle de hypnotiseur, c'est certain, mais son rôle n'est pas essentiel, c'est pas lui qui crée l'hypnose. Simplement, il suscite plus ou moins la confiance, ou il suscite plus ou moins les résistances, mais il n'est pas à l'origine du phénomène.
Ce que vous demandiez au sujet, à Nathalie, était très proche, ou sinon semblable, à ce qui est demandé quand on fait par exemple une séance de relaxation, et voire même quand on pratique les moments de décontraction dans le yoga. Mmh. Alors, à quel moment ça bascule? À quel moment cela plonge-t-il?
Actuellement, personne ne pourrait dire de façon très stricte qu'il existe une différence entre le yoga, le zen, la sophrologie ou l'hypnose. Sous hypnose, il y a des sujets qui sont dans un état qui ressemble beaucoup plus à la relation centrée sur soi-même du yoga, par exemple, qu'à une relation centrée sur l'hypnotiseur, par exemple. Donc, si vous voulez, les mots comme hypnose ne sont commodes que dans la mesure où ils renvoient chacun à des stéréotypes communs. C'est-à-dire, quand on pense hypnose, on pense, si on veut, état de conscience modifié, plus dépendance par rapport à l'extérieur.
Cela fait un certain nombre d'années que vous poursuivez un travail de recherche systématique sur l'hypnose. Alors, je voudrais vous demander s'il y a des acquis nouveaux et quel est votre but de recherche?
Oui. On a vu se profiler quoi, une différence assez importante entre des trans où la suggestion joue un rôle essentiel et des trans hypnotiques où, en fait, au contraire, il y avait une espèce d'absence totale de réactivité aux suggestions. Et en fait, on ne peut absolument pas hiérarchiser les états hypnotiques en fonction de ça. Et vous avez des états hypnotiques aussi profonds où vous avez des sujets qui ne font rien, et des états hypnotiques très légers où les sujets font tout ce qu'il leur est suggéré. C'est-à-dire qu'en fait, il y a vraiment une certaine indépendance, peut-être pas totale, mais une certaine indépendance entre deux facteurs. Un qui expliquerait surtout la suggestibilité et l'autre qui expliquerait surtout l'état de conscience, le changement d'état de conscience. Alors si vous faites cette différenciation-là entre ces deux facteurs, l'hypnose perd son côté de phénomène de foire, en fait. Si on veut bien oublier l'hypnose comme phénomène caricatural, ce qu'on étudie dans l'hypnose correspond à des mécanismes mentaux essentiels qui régissent les relations interindividuelles, intergroupes, et même individu-environnement. C'est-à-dire quand l'environnement est par trop stressant, de toute évidence, certains sujets enclenchent sur des états hypnotiques passifs qui leur permettent d'assumer l'environnement stressant sans en être profondément détériorés émotionnellement. C'est cette dimension-là qui rapprocherait le plus peut-être l'hypnose humaine de l'hypnose animale. La dimension protection contre le stress, en fait.
Martine Gillet, vous êtes étudiante en psychologie et avant d'être désignée comme sujet expérimental, vous aviez connu une certaine expérience de l'hypnose.
Oui, j'ai eu des cours à la faculté de sciences d'hypnose auxquels il a été demandé aux étudiants de pouvoir faire une expérience d'hypnose collective et à la suite de cette expérience d'hypnose collective, bon, il s'est avéré que je fus révélée comme un sujet assez intéressant. Alors, à la suite de cette expérience, bon, on m'a demandé, quelques mois après, de participer à des expériences individuelles d'hypnose auxquelles j'ai accepté.
Vous avez plus particulièrement participé à une expérience sur la fatigue, et c'est celle-là que j'aimerais que vous me racontiez.
Oui. Alors, sur la fatigue, ça se passait dans un hôpital, avec des... Enfin, des gens qui, justement, contrôlaient un peu cet état de fatigue avec des appareils particuliers. Bon, j'étais hypnotisée et on m'a fait monter sur un vélo pour vérifier mon état de fatigue en me donnant des suggestions suivantes en disant « Vous montez une côte et vous êtes très, très fatiguée ». Et effectivement, quand je pédalais sur mon vélo qui était à une allure tout à fait normale, il n'y avait rien de particulier, enfin, je me sentais très fatiguée et l'impression d'être complètement vidée. Et quand on me disait que je descendais une côte, effectivement, je me sentais tout à fait alerte et je pédalais gaillardement.
Or, vous étiez sur un vélo fixe, bien entendu.
Ah, tout à fait, oui, tout à fait. Et ça, tout ça, en étant hypnotisée. Hein, et en simplement en ayant pour base d'écoute que la voix de l'hypnotiseur.
Et comment sortiez-vous de ces expériences de très grand effort où on faisait croire que vous montiez une côte, etc.?
Bah, j'avais l'impression de ressortir en sueur. Et bon, après quand même, je me sentais un petit peu fatiguée sur le coup, mais après je me sentais complètement en pleine forme, comme si j'avais dormi.
Oui, une expérience donc plutôt positive.
Oui.
Et régénératrice.
Ah oui, tout à fait, oui. C'est bien simple, à chaque fois que j'avais des expériences d'hypnose, quelles que soient les expériences, je me sentais en pleine forme. Bon, et je sais très bien que j'avais du mal à dormir après, parce que j'étais pas fatiguée du tout.
En tant qu'étudiante en psychologie, vous en retirez quelque chose?
J'ai l'impression que justement le psychique contrôle beaucoup plus le corps qu'il n'apparaît habituellement. Et c'est un petit peu dans cette orientation-là que ça m'intéresse justement pour mes études et pour ce que je veux faire plus tard. Parce que justement, si ce fameux psychisme contrôle ce corps, bon, il peut s'avérer que toutes les maladies qui sont dites psychosomatiques, justement, dont on ne peut pas guérir facilement comme ça, soit par une psychothérapie ou une analyse, peuvent peut-être, avec la base de l'hypnose, être guérissable.
Et si vous êtes un jour vous-même psychothérapeute, vous envisageriez d'utiliser l'hypnose?
Ah oui, tout à fait, j'aimerais bien, oui.
Aussi bien ceux qui pratiquent déjà l'hypnose que ces étudiants futurs thérapeutes qui envisagent d'introduire l'hypnose dans leur pratique future redonnent en quelque sorte de nouvelles lettres de noblesse à l'hypnose. J'ai rappelé alors au docteur de Mijola, psychanalyste, une phrase de Freud en 1923. On ne surestimera jamais trop l'importance de l'hypnotisme pour le développement de la psychanalyse. Au point de vue théorique et thérapeutique, la psychanalyse gère l'héritage qu'elle a reçu de l'hypnotisme. J'ai alors demandé au docteur de Mijola s'il était d'accord sur le mot « héritage ».
Oui, c'est tout à fait exact et Freud a toujours eu, tout au long de son œuvre, le coup de chapeau pour dire « j'ai démarré comme ça, ça s'est passé comme ça ». Il faut dire également qu'à l'époque, il a été persécuté parce qu'il était hypnotiseur. Je crois qu'il y a aussi chez Freud une certaine façon d'affirmer contre vents et marées qu'il a poursuivi son œuvre, il a poursuivi son chemin. Mais s'il a toujours reconnu ce qu'il devait à l'hypnotisme, il a quand même tout en même temps et tout au long de son œuvre bien marqué qu'un jour ça avait stoppé. Alors Qu'est-ce qu'il a reconnu à l'hypnotisme? Si on relit tous ses écrits concernant la suggestion hypnotique, il reconnaît qu'il a trouvé, dans ce qui s'était passé particulièrement chez Bernheim, il a trouvé la preuve de l'existence d'actes inconscients. Deuxième chose très importante qu'il a pu découvrir, c'est que quand Bernheim insistait en disant « mais si vous vous souvenez, eh bien les malades se souvenaient ». C'est-à-dire que petit à petit, alors qu'il prétendait ne se souvenir de rien de ce qui s'était passé pendant le sommeil hypnotique, petit à petit, eh bien il se souvenait de tout, tout à fait parfaitement. C'est-à-dire que la suggestion, là cette fois-ci à l'état éveillé par Bernheim, faisait contrebalancer la suggestion à l'état hypnotique et qu'ils avaient donc l'autorisation de se souvenir, alors que sans ça, il se serait bien interdit de se souvenir de ce qui s'était passé pendant cette période hypnotique. Autre chose que Freud a reconnu par rapport à l'hypnose, c'est que l'hypnose, la suggestion hypnotique, pas le sommeil hypnotique, la suggestion hypnotique, avait une valeur thérapeutique tout à fait certaine de renforcement du moi. Ça aide le moi. Vous avez des moi faibles, ça les aide qu'on leur dise « mais si, vous êtes fort, vous êtes fort, vous allez voir, vous êtes très fort », ça les aide. Et ça, la psychanalyse, s'interdisant de faire ça, n'a jamais pu remplacer ce procédé hypnotique de suggestion et de renforcement du moi. Vous avez tout à l'heure cité Freud, et parlant de l'héritage que gère la psychanalyse. Mais qui dit héritage dit mort. Et je crois qu'effectivement, l'hypnotisme est mort un jour, et la psychanalyse, à ce moment-là, a pu naître. Et ça, Freud le dit tout à fait bien dans l'introduction à la psychanalyse. Il dit « Je suis donc en droit de dire que la psychanalyse proprement dite ne date que du jour où on a renoncé à avoir recours à l'hypnose. » Et ça, il ne s'est jamais départi ensuite de cette position très très nette. Il y a incompatibilité absolue, à mon avis, entre psychanalyse et hypnose.
Est-ce que cependant l'hypnose, selon vous, de nos jours, peut trouver quelques indications, quelques applications? Vous connaissez le regain de l'hypnose en thérapie actuellement.
Je crois, voyez-vous, que toutes les méthodes sont bonnes. Quand vous êtes en péril et que vous êtes, disons, dans un torrent, si quelqu'un vient vous sauver, vous n'avez pas lui demander s'il fait partie du syndicat des sauveteurs, s'il a une carte de ceci et comment il a fait. Vous êtes content qu'il vous ait sauvé. D'un autre côté, cette personne, ce n'est pas parce qu'elle vous a sauvé qu'elle peut vous apprendre à nager, c'est-à-dire à faire en sorte qu'après vous vous en tiriez tout seul. Je pense pour ma part qu'il n'y a pour le moment dans l'hypnose aucune théorie et rien sur quoi s'appuyer. C'est une méthode toujours empirique. Aucun progrès à aucun niveau n'a été fait depuis 100 ans. Et vous avez maintenant encore toute une série de thérapeutiques, je pense au cri primal ou à toute une série de thérapeutiques de ce genre, qui sont des tenants de cette même illusion qui a quelque part de bloqué, là encore, de bloqué quelque part dans une réserve secrète. Alors là, c'est de l'énergie, c'est de l'affectif, et qu'il va falloir percer avec le vilebrequin hypnotique ou autre pour faire s'échapper cette espèce de poche de gaz comprimée, et d'un seul coup, tout le monde est soulagé, tout le monde est guéri. Ça me paraît extraordinairement simpliste. Et dans toutes ces recherches, et d'ailleurs aussi bien sur le plan corporel, de produire des anesthésies ou tels signes, etc., chose que font dans des tas de pratiques hindoues des gens sans l'appui de quelqu'un d'autre, et bien dans tout cela, ce qui caractérise à mon avis l'hypnose, c'est le rôle trop important, trop lourd, trop énorme, confié au thérapeute, à l'hypnotiseur. Voyez-vous, la psychanalyse, c'est aussi une relation à deux. Mais tout a été fait pour gommer au maximum, justement, la réaction contre-transférentielle, ça s'appelle comme ça, du psychanalyste. Alors que dans l'hypnose, tout repose précisément sur cette réaction. Tout repose sur la personnalité toujours prégnante, toujours pressante, toujours présente de l'hypnotiseur.
Pendant une de mes dépressions qui était assez prononcée, j'avais vraiment l'intention de mettre fin à ma vie.
Madame Thénault.
Et j'avais préparé une enveloppe contenant quelques tubes de tranquillisants qui étaient à ma portée constamment. Et je pense que à la séance chez le docteur, j'ai dû lui en parler, mais involontairement. Pendant l'hypnose. Et je suis rentrée. L'après-midi, je suis allée faire ma sieste, comme d'habitude, parce que j'étais très fatiguée à ce moment-là, physiquement également. Et vers 3 heures, J'ai regardé l'heure et je me suis dit, oh, il faut que je me lève, j'ai quelque chose à faire. Et automatiquement, j'ai pris dans ma table de chevet, j'ai pris mon petit paquet de remèdes, je l'ai apporté à mon mari et je lui ai dit, je t'en prie, veux-tu aller jeter ça le plus rapidement possible à la poubelle ? Mais pas ici, à la cuisine, mais là, tout de suite, à la cave. Alors, mon mari a dit, qu'est-ce que c'est ? Alors, je lui ai expliqué. Il n'a rien dit, mais il m'a obéi. Enfin, il a fait ce que je lui demandais. Et la fois d'après, je l'ai raconté au docteur Chertok. Alors, il me dit, mais bien sûr, je vous avais dit qu'à 3 heures cet après-midi, vous détruiriez tout ce qui vous restait comme produit tranquillisant.
Écoutez, ça, c'est un exemple très positif, mais est-ce que vous ne pensez pas que dans d'autres mains, on pourrait finalement, alors de cette façon, commander à distance à quelqu'un de faire n'importe quoi ?
Je ne pense pas. Enfin, l'hypnose s'arrête toujours à un point que le malade ne veut pas dépasser. Demander, par exemple, quelque chose à un malade qu'il ne veut pas faire, il ne le fera pas.
Vous vous endormez profondément. Maintenant, je vais compter de 1 à 5. Et à 5, vous vous mettrez à rêver. 1. 2. 3. 4. Et 5. Vous rêvez. Maintenant, les images de votre rêve s'estompent. Vous pouvez vous rappeler facilement de ce rêve. Est-ce que vous avez rêvé ?
Docteur Michel Godard, vous êtes psychiatre dans le service du professeur Léger au centre hospitalo-universitaire de Limoges.
Oui.
Et je crois que vous utilisez l'hypnose dans votre pratique psychiatrique.
Oui, effectivement, nous utilisons régulièrement l'hypnose dans notre pratique de thérapeute à l'hôpital, très régulièrement. Nous sommes deux médecins à faire de l'hypnose, à avoir été formés à l'hypnose et à faire de l'hypnose dans le service. Enfin, ça reste pour nous une thérapeutique, non pas d'exception, mais enfin c'est une thérapeutique peu courante. Nous l'utilisons dans une seule indication. Nous l'utilisons uniquement dans l'hystérie de conversion.
L'ensemble des psychanalystes est très réticent en général à l'hypnose. Est-ce que vous pensez que hypnose et psychothérapie de type analytique sont compatibles ?
Pour nous, l'hypnose est une des psychothérapies. C'est quelque chose qui se passe entre deux personnes à travers une relation très particulière. Donc c'est une psychothérapie à part entière. Et je crois que les analystes sont mal placés pour ne pas bien aimer l'hypnose, puisque l'hypnose a fondé pratiquement la démarche analytique. Au départ, l'analyse est née de l'hypnose, comme tout le monde le sait.
Est-ce que vous pensez que l'hypnose devrait connaître des développements plus systématiques et plus importants dans le cadre médical et...
Effectivement, je pense que l'hypnose est complètement sous-estimée à l'heure actuelle et que malheureusement, c'est une formation qui reste peu divulguée. Je pense que l'hypnose est complètement sous-estimée parce qu'il y a un certain nombre... Finalement, les symptômes de conversion hystérique sont extrêmement fréquents dans notre pratique. Ils répondent mal aux thérapeutiques chimiques, ils répondent mal aux psychothérapies classiques, parce qu'en général, ce sont des gens qui ont une difficulté de relation, enfin, qui verbalisent difficilement. Et je pense que l'hypnose est une thérapeutique à laquelle on devrait recourir beaucoup plus quand on est capable de faire un diagnostic de conversion hystérique, ce qu'on ne sait pas toujours faire. Peut-être qu'aussi les médecins ont désappris à faire ne savent plus faire ce diagnostic. J'aimerais parler un peu de la perception de l'hypnose vue de l'extérieur et peut-être aussi vue du côté de l'hypnotiseur. Je pense qu'on est souvent perçu comme et qu'on se retrouve dans la position soit du guérisseur, soit du magicien. Et qu'il y a là quelque chose qui est très très proche. L'hypnose fonctionne avant tout par la... Enfin, quant à notre technique, est fondée avant tout sur la parole, sur la voix. C'est un espèce de charme qui se crée, c'est un rituel extrêmement précis. Et je crois qu'il y aurait aussi à attendre pour comprendre ce comment l'hypnose marche. Il y a bien sûr, si vous voulez, toute la démarche des sciences physiologiques, neurophysiologiques en particulier. On ne peut pas non plus ne pas l'envisager sans faire appel aux sciences humaines et sans faire appel à l'anthropologie. Et à toutes, je crois qu'il y a une articulation manifeste du social et des mythes collectifs sur l'hypnose, et que ça ne peut aussi s'expliquer que comme ça.
Après cette remarque si pertinente du docteur Godard sur la nécessité d'interroger les sciences humaines pour saisir peut-être quelque chose de ce lien prégnant entre le corps du sujet et le vaste corps social, j'ai demandé au psychosociologue Serge Moscovici, qui dirige un séminaire sur le thème de l'influence, ce qu'il pensait de l'hypnose comme prototype de l'influence sociale.
Au départ, l'hypnose était une pratique de groupe, et c'est dans des situations de groupe qu'on réalisait des changements de comportement, de pensée, et on arrivait à faire croire aux gens que les commandements qu'ils recevaient dans des situations d'hypnose étaient en fait des émanations de leur propre volonté ou de leur propre pensée. Si vous voulez, l'hypnose est la première méthode de transformation non logique, si on peut dire, du comportement humain. Et dans ce sens-là, je me suis intéressé à l'hypnose, à la suggestion verbale surtout, vous voyez, parce qu'on disait que l'important dans l'hypnose, c'était la suggestion verbale, et je me demandais si on ne pouvait pas réaliser à peu près les mêmes effets sans recourir aux différents procédés propres à cette méthode.
Et vous pensez qu'on le peut ?
Ah oui, j'ai obtenu dans le laboratoire toute une série d'effets qu'on obtenait dans le temps uniquement par l'hypnose.
Ce qui fait que vous diriez que suggestion et hypnose se recouvrent ?
Eh bien oui, parce que dans l'hypnose, du moins il y a un certain nombre de théories qui pensent que ce qui est dans l'hypnose d'important, c'est la suggestion verbale. Ce n'est pas l'ensemble des inductions d'états particuliers de transe ou de situations de demi-réveil. Mais du reste, si vous voulez, la chose la plus importante, c'est que l'hypnose a fourni le modèle, à partir du 19e siècle, enfin de la fin du 19e siècle, de l'action sur les masses. Et même dans ce qu'on appelle la publicité ou dans les masses médias, eh bien, vous avez affaire avec des phénomènes para-hypnoïdes ou tout ce que, ou, je sais pas, semi-hypnoïdes, qui sont les phénomènes d'influence sociale.
Vous laisseriez entendre que nous sommes tous des hypnosés qui nous ignorons.
Ben, on n'en est pas en permanence des hypnosés, mais finalement, on peut assez facilement produire des phénomènes analogues. Et finalement, toutes les civilisations ont eu recours à ces procédés. Par exemple, je sais pas, j'ai lu récemment un livre de Gilbert Rouget sur la musique. La musique et la transe, l'exaltation, etc., eh bien, vous avez affaire à des phénomènes de ce type-là. Les possessions sont des phénomènes aussi de cet ordre. Alors, voilà, l'hypnose est quelque chose qui est assez mystérieux. C'est vraiment un des phénomènes les plus mystérieux qu'on puisse concevoir. Mais pourtant, comme on dit, ça marche.
Pourquoi ce regain pour l'hypnose à notre époque, selon vous ?
Eh bien, je crois que le regain d'intérêt pour l'hypnose a plusieurs raisons. D'abord, il y a une raison très particulière, qui est celle de l'efficacité des thérapies. Il faut bien dire que beaucoup de techniques ou de thérapies dans lesquelles on a mis beaucoup d'espoir, je ne sais pas, en allant des techniques de groupe jusqu'à la psychanalyse, n'ont pas répondu aux espoirs qu'on y mettait. Et alors, elles ne sont pas non plus montrées, avérées plus efficaces que l'était cette vieille hypnose. Je pense que l'autre aspect, c'est finalement ce phénomène social, le phénomène de l'influence. On n'est pas sans savoir que, par exemple, les réunions de masse, les rapports interindividuels sont médiés par quelque chose de l'ordre de la suggestion. Et je crois qu'il y a quelque part une sorte de manière d'aborder ce qui était un peu inexplicable dans le succès du fascisme, par exemple. Vous savez bien que Hitler était quelqu'un qui maîtrisait assez à fond cette technique, et qui l'a utilisée de manière très consciente. Et puis, je crois qu'il y a aussi un autre élément, c'est le désir de retourner, de retrouver des formes de médication plus naturelles, entre guillemets, plus traditionnelles. L'hypnose a quand même des effets analogues à l'acupuncture, par exemple, en ce qui concerne l'analgésie, où Chertok a fait dans le temps des recherches sur l'accouchement sans douleur. Et je crois que ce sont là des facteurs qui joue en faveur, enfin, qui explique ce regain d'intérêt pour l'hypnose. Mais je crois aussi cette curiosité pour un problème irrésolu.
Point de vue, est-ce que vous pensez qu'il y aurait une moralisation possible de l'hypnose pour lui donner plus de crédibilité, pour qu'elle prenne sa place plus officiellement dans les thérapies ou dans les psychothérapies?
Moi, je l'espère. Vous comprenez, l'acceptation de l'hypnose comporte aussi un problème affectif.
Vous
comprenez, il y a une espèce de résistance des milieux médicaux, des milieux psychanalytiques, parce que c'est eux-mêmes qui ne sont pas débarrassés de préjugés où l'hypnose est quelque chose de magique. Et même la magie, vous voyez, si la magie agit, il est intéressant de connaître quel est le mécanisme d'action. Peut-être l'hypnose expliquera la magie.
Progressivement, vous allez sentir, vous sortez de l'état hypnotique pour retomber à l'état de veille. À 5, vous ouvrirez les yeux. Et à 1, vous serez parfaitement réveillé, en pleine forme. 20. 19. 18. 17. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
C'était « Pourquoi revient-on à l'hypnose » en 1980. Un reportage de Nadine Nimier, réalisé par Christine Bernard-Sugy. Première diffusion dans les après-midi de France Culture, le 21 avril 1980.